Putain, bordel de merde, 30 ans! Je me sens vieux, les gars. Et les garces également, bien sûr. Me revoici pour ce second numéro qui portera sur mars 1992. Donc, je rappelle, petite review de la presse vidéoludique de l'époque. Principalement, donc, les connus joystick, joypad, Player One Console Plus. Tilt également, évidemment. Cette semaine, je vous annonce le sommaire, comme ça vous savez tout de suite si c'est de la merde pour vous ou si vous voulez zapper directement à un endroit du podcast. C'est un peu plus honnête que d'essayer de vous faire deviner les jeux au fur et à mesure. Dois-je faire un jingle pour annoncer chaque rubrique? Ah, peut-être, mais un peu la flemme quand même, hein, je vous avoue. Du coup, alors cette semaine, on va déjà s'attarder un petit peu sur les actualités de l'époque, actualités vidéoludiques, hein, bien sûr, hein, les news. Ensuite, on passera un petit coup d'œil à l'émission Micro Kids, donc celle de février 1992, comme j'ai pas retrouvé celle de mars. Il y a des bonnes choses à entendre, hein, je vous préviens. Après ça, on pourra faire un petit focus sur une rubrique en particulier qu'on retrouve un peu dans tous les magazines. Ce mois-ci, on va s'attarder sur la rubrique Courrier des lecteurs. Il y a des bonnes choses à lire également. Et évidemment, ce que vous attendez tous et toutes avec impatience, c'est les tests. Donc on testera Toki sur Mega Drive, Chip and Dale sur NES, Soul Blader sur Super Famicom et Dune sur PC. Un gros programme. Et on va y aller tout de suite, mais avant, Mars 92 en dehors de jeux vidéo, ça ressemble à quoi?
Bonsoir, un cadeau pour le chef de l'État, un cadeau modeste, je vous rassure, et utile, une boîte de couleurs. Elle illustre si bien le nouveau paysage politique. Il y a quelques années à peine, ce paysage était bicolore, bleu et rouge. Aujourd'hui, c'est une sorte d'arc-en-ciel où toutes les nuances apparaissent. Rouge vif, rouge terne, rouge rose, rose vert, vert vert, bleu nuit, bleu clair ou noir.
Je n'ai pas l'ami comme toi. Non, 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 pas d'autre ami.
En hausse également le Front National, plus 4 points, mais avec 13,9%, le FN n'obtient pas le succès qu'il escomptait.
C'est pas parce qu'on est né dans un village défavorisé qu'il faut considérer qu'on n'a pas le droit de s'amuser.
Attentat à la voiture piégée ce matin à Madrid, l'explosion a fait une victime, le fils d'un colonel de l'armée espagnole. L'attentat n'a pas encore été revendiqué, mais les enquêteurs soupçonnent l'organisation séparatiste basque ETA.
Je sais pas comment te dire ce que je veux pas écrire. Faudrait que j'invente des mots qui n'existent pas dans le dico. C'est toi que je t'aime.
Vachement beaucoup.
26 morts, 24 blessés et un disparu, c'est le bilan de l'accident d'avion hier soir à New York. L'appareil, un Fokker 28 de la compagnie US Air, a pris feu juste après le décollage pour une raison inconnue. L'avion s'est abîmé dans la baie de Flushing en bout de piste.
Arrête! Ah là, c'est bon, non, non, c'est bon, c'est bon. C'était un journal télévisé au hasard dans le mois de mars. Ça ressemble vachement à aujourd'hui quand même, hein. Imaginez, j'ai vu sur YouTube un gros con qui dit que les années 90 c'était mieux en fait qu'aujourd'hui. Frédéric Mola, avant c'était pareil qu'aujourd'hui. Putain de boomer. Quoi de neuf en mars 92 dans les actualités? Alors on a une petite news en joystick qui parle de l'Amiga. Amiga 600, bref, voilà qui devrait conforter la place qu'occupe l'Amiga dans le marché ludique micro 16 bits, puisqu'Atari, son concurrent direct qui avait jusqu'à présent habitué la presse à annoncer ses nouveautés 2 ans à l'avance, semble sans voix à l'heure actuelle. Voilà, c'était une petite news qui portait sur l'Amiga 600, donc voilà, qui forcément va écraser toute la concurrence. Alors, ce qu'ils savent pas, c'est que l'Atari, effectivement, va disparaître, mais l'Amiga avec lui. L'Amiga 600, ce sera le tout dernier Amiga, l'ordinateur de bureau qui restera à tout jamais, ce sera le PC équipé principalement à l'époque de Microsoft DOS. À l'époque en 92, je pense qu'on était à 5, Microsoft DOS 5, et qu'on était sur le point de passer à 6.22 avec un petit Windows 3.11. Ça nous rajeunit pas. Du coup, pour parler vite fait du jeu PC, c'était toujours un peu la guerre à côté des consoles. Les consoles, tu mettais la cartouche, t'appuyais, c'était quand même assez plaisant. Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux quand même à ce niveau-là, même si les bugs, voilà. Il y a des gens qui peuvent rencontrer, par exemple, des bugs qui font planter leur console, leur PC, pardon. Justement, là où les consoles ne plantent pas, sur un jeu AAA qui vient de sortir, qui s'appellerait Elden Ring, je connais des gens comme ça. Et bah, le PC, c'était déjà comme ça à l'époque, et c'était bien la merde. Et du coup, Windows 3.11, on s'en servait pas vraiment, je crois, pour lancer les jeux. C'était plus. Moi, de mon souvenir, c'était des applications bureautiques pour jouer sur Paint, tout ce genre de merde. Pour les jeux, c'était toujours avec l'invite de commande MS-DOS, évidemment. Où on devait voilà, installer, passer par le setup, choisir la bonne carte graphique, choisir la bonne carte son, configurer sur chaque jeu son putain de joystick en le calibrant, etc. Un bonheur absolu. Et en fait, on était presque surpris, je trouve, quand un jeu marchait. On se disait: Ah, papa! Papa! Le jeu, il marche! J'exagère évidemment, mais c'était parfois un peu compliqué, ça dépendait de la config qu'on avait évidemment, du jeu en question. C'est. Et en fait, il y avait tellement de variables dans l'équation que c'était un peu compliqué. Alors, dans les news, on voit aussi que le piratage est en hausse. En hausse! Bravo! 26 milliards de francs de manque à gagner. Avec le temps, on s'est aperçu que le manque à gagner, c'était pas si facile en piratage. C'était pas si facile à calculer parce que là, il y a quand même un bon morceau des gens qui, de toute façon, n'auraient pas payé. Soit parce que bah, ils n'avaient pas les moyens d'acheter le jeu, ou soit parce que ils le piratent pour tester le jeu et ils l'auraient pas acheté dans tous les cas. Il y a un manque à gagner, hein, voilà. Pas déconner, mais il n'est pas aussi évident que l'on le croit. Ensuite, on a une annonce d'une présentation d'un premier jeu en réalité virtuelle. Et ben, en fait, en y regardant de plus près, en fait, c'est juste un jeu en vue subjective. Les mecs, voilà, ils ont fait un abus de langage, je ne sais quoi. Et il n'y a pas de casque ou quoi, c'est juste un Tetris en vue subjective en fait. What the fuck? Il y a des rumeurs d'alliance entre Sony et Apple pour une console portable. Alors ça c'est assez fort quand même. On rappelle, Apple ne sortira jamais de console portable, à part si on compte l'iPhone comme une console portable. La première console de Sony, ce sera la PSP, et c'est pas avant, voilà, c'était courant en 2000, hein, donc là on n'est vraiment pas. Voilà, on est dans des news un peu bullshit, des rumeurs de machin qui connaît machin et qui dit de la merde. On nous annonce également l'arrivée imminente de Mario Bros sur micro-ordinateur. Mais attention, Mindscape, donc, qui a obtenu les droits, n'a pas le droit de faire de jeu en fait. Ils n'ont pas le droit de faire un platformer comme Mario pour. Voilà, ils veulent pas de concurrence. Du coup, ce qui se passera, c'est qu'ils vont publier une série de jeux éducatifs. Dont le premier jeu sera, vous le savez très bien, pour les vieux, Mario is Missing. Hein, donc, c'est un jeu de géographie qui était vraiment nul à chier. On nous annonce également dans les news la sortie de la Game Boy Color cet été au Japon. On est en mars 92. Elle sortira en fait 6 ans plus tard. Voilà. On a une bonne petite brochette voilà, de bullshit. Et ça, c'est génial. C'est très sympa de lire des rumeurs et de voir où est-ce qu'elles ont été finalement. Bah, pas très loin apparemment. Pour finir sur cette rubrique news, et une paire de petites news qui concernent la Super Famicom. Une première, je vous la lis, hein. La Super Famicom joue les souris. Alors attention, hein. Écoutez bien, vous allez être abasourdi. Nintendo s'apprête à présenter une souris pour sa console 16 bits. Pour ceux qui ne seraient pas branchés informatique, précisons que la souris est ce petit boîtier, rendu populaire par l'ordinateur Apple Macintosh, que l'on tient dans la main et qui, par glissement, permet de déplacer un curseur à l'écran. Putain, j'adore! Écoutez, aujourd'hui, ça paraît évident pour n'importe qui sur Terre, tu vois. Et on devait expliquer à l'époque, c'est génial. Le principal avantage de cet accessoire est de permettre des mouvements très précis et sans contrainte. Il faut dire que la souris manquait cruellement sur des jeux comme SimCity, Populous ou Donjon Master. Pour l'instant, seul SimCity serait capable de gérer SF Mouse, l'interface qui rend compatible la souris avec la Super Famicom. Mais la société Imaginaire, l'éditeur de Populous, est d'ores et déjà en train de bosser sur Populous 2, qui sera entièrement compatible avec Super Famicom Mouse. Selon les rumeurs, Nintendo aurait déjà une toute gamme de jeux, mais aussi de produits plus secrets, spécifiquement conçus pour cette souris. La sortie au Japon serait prévue pour septembre, mais aucune date n'est fixée pour la Super Nintendo française. Dans les jeux connus que l'on peut voir, que l'on connaît éventuellement, Civilization, Cannon Fodder, Eye of the Beholder, Jurassic Park, King's Arthur World. Ça, c'était un jeu, mais putain, mais c'était trop de la bombe. J'espère qu'on en parlera un jour. Mario Paint. Mario Paint, on en parlera. Might and Magic. Il y a... à mon avis, c'est une liste un peu plus longue que le Super Scope. Bon, on verra ça. On a une petite news à côté aussi. Nintendo. Nintendo quoi ? Alors, attendez, est-ce que j'ai deux images ? Alors que tout le monde croyait Nintendo très en retard sur la technologie du CD-ROM, le numéro 1 mondial frappe un grand coup en annonçant une machine plus puissante et moins chère que les solutions déjà existantes. La Super Famicom CD-ROM adaptateur ! Nintendo semble avoir pris « Rien ne sert de courir, il faut partir à point » comme devise. Oh putain, alors ça c'est encore très très vrai au niveau puissance pure des consoles, mais bon, un peu osef au niveau. Alors que les autres au grand public japonais découvrent nanana, ok. Le lecteur de CD-ROM permet d'avoir les jeux sur compact disc, celui de la Super Famicom accepterait trois types de CD, les CD audio, les jeux CD spécialement conçus pour la Super Famicom et, grande nouveauté, les CD interactifs par le biais du CD-ROM XA, un standard mis au point par Philips, Sony, Microsoft et Nintendo qui permettrait de faire tourner des programmes autres que des jeux. Putain, les mecs, ils voulaient rendre compatible avec le CDI. Waouh. Côté jeu, on devrait rapidement être servi et même bien servi puisque Shigeru Miyamoto, le créateur génial de tous les grands jeux Nintendo, vient d'annoncer que Super Mario et Zelda sortiraient en même temps sur CD. Est-ce que dans les news que je lirai aujourd'hui, il y aura au moins un truc qui se sera réalisé ? Eh ben, écoutez ça. La Sony PlayStation existe. Sony va bientôt présenter sa console de jeu, une Super Famicom top class. Ça y est, on sait davantage sur la PlayStation de Sony. Le géant de l'électronique haut de gamme se lance donc dans la production d'une console de jeu entièrement compatible avec la Super Famicom. Donc un truc encore différent de l'adaptateur. Donc là, c'est vraiment une console à part, mais qui fait Super Nintendo plus lecteur CD. La machine se présente ainsi sous la forme d'un gros Discman dans le plus pur style Sony. Se cache une Super Famicom recarrossée et un lecteur de CD-ROM. Waouh. Je me demande si ça va sortir ce truc. Alors voilà pour les news de ce mois-ci. Beaucoup de rumeurs, beaucoup de merde. Allez, on passe à MicroKids maintenant.
Salut à tous et à toutes, bienvenue dans MicroKids, MicroKids qui va aujourd'hui vous parler de fanzines. Les fanzines, ce sont des petits journaux créés par des amateurs passionnés et qui s'adressent à d'autres amateurs passionnés. Bien évidemment, nous nous sommes intéressés à ceux qui sont créés par les passionnés de jeux vidéo et de jeux sur micro-ordinateur.
Ça fait pas du bien d'entendre les années 90 comme ça, là, qui te rentrent dans les tympans, putain, c'est un bonheur. Je me souviens pas spécialement avoir regardé cette émission à l'époque, ce que je trouve totalement invraisemblable. Alors voilà, MicroKids, donc, c'est une émission présentée par, je sais même plus, Jean-Michel de la Blottière, un truc comme ça. Alors je me suis tartiné, du coup, l'épisode de février 1992, et putain, mais quel bonheur. Tous ces enfants que je vois, là, à l'écran, 12, 13 ans, ils sont quarantenaires maintenant, c'est pas un truc de fou. Alors, le principe de l'émission, de ce que j'en ai vu dans cet épisode, c'est qu'on a une compétition entre gosses qui viennent de collèges différents. Donc par équipe de deux, ils vont s'affronter sur des jeux, mais pas ce mois-ci en tout cas. C'était pas sur un jeu en direct, c'était sur Goblin, une sorte de shoot'em up un peu dégueulasse. Ça devait être sur Atari ou Amiga. Et celui qui fait le plus grand score remporte la manche. Voilà. Et ils répondent aussi à quelques petites questions, dont voici un court extrait.
Première question quiz. À combien de joueurs peut-on simultanément jouer sur la Core Graphics avec l'adaptateur multijoueur ?
5.
Oui, Johan.
5.
5 joueurs, bonne réponse, c'était une question de Laurent de la Gacilly. Deuxième question. Nos candidats ont joué toutes ces dernières semaines au jeu Super Long Nose Goblins. Mais comment traduit-on en français le mot anglais nose ? Oui. Johan.
Né.
Bonne réponse, plus 2 points. C'était une question d'Alexandra de Ganges. Troisième question, vrai ou faux, le Light Player sur Game Boy permet de jouer dans le noir.
Faux.
Keovilai.
Faux.
Faux. Et non, le light player permet bien de jouer dans le noir.
Et donc en parallèle de cet affrontement fracticide entre jeunes collégiens, il y avait des tests de jeu. Ce mois-ci, c'était principalement Fatal Fury sur Neo Geo. Donc pour comprendre un peu le délire, je vous laisse le test complet.
Dans Fatal Fury de SNK sur Neo Geo, vous êtes un spécialiste du combat de rue. Un spécialiste international qui doit se bagarrer aux quatre coins du monde et tous les coups sont permis. Le décor varie selon le lieu du combat, les spectateurs sont attentifs. Vous pouvez aussi combattre dans la solitude sous la pluie. Une note graphique de 16 sur 20. L'animation des bagarres est sublime, regardons respectueusement quelques scènes de combat. Pas de doute, l'animation vaut 19 sur 20. La bande son est bien sûr de qualité, c'est normal sur Neo Geo. Cela dit, il n'y a pas vraiment de trouvailles, on va lui mettre simplement 14 sur 20. On vous donne le choix au départ entre 3 joueurs, chacun à son efficacité. Quoi qu'il en soit, ils répondent aux moindres vibrations de votre joystick. Une jouabilité de pro du 17 sur 20. La variété des ennemis, elle, est formidable. Regardez ce sage se transformer et lancer ses attaques magiques. Carrément génial, Fatal Fury ne séduira pas seulement les amateurs de grosses bagarres primaires, nous donnons une note globale de 17 sur 20.
Voilà, un peu comme tous les magazines à l'époque, on découpait à tort et à travers les jeux en plein de sous-notes pour avoir une note d'intérêt global. C'était, je sais pas quelle formule mathématique débile, mais honnêtement, moi je suis pour le pas de notes en fait. Ouais, je sais, ça fait chier, ouais. Comment on sait ? Bah comment on sait si un jeu est bien ou est pour nous ? Bah on lit le test, et on se contente pas de lire le résumé à la fin du test, que le journaliste s'est fait chier pendant des heures à écrire, bande de cons. Typiquement, on avait, dans les années 2010 à peu près, on avait IG Mag, qui est un magnifique magazine, intemporel, bourré de dossiers rétro, de toute nature, c'est incroyable comme magazine. Et ça a fermé, les magazines étaient un peu chéros, mais c'était d'une qualité, mais c'est qualité livre, quoi. J'en ai la larme à l'œil, rien que d'en parler. Et ben dans leur test, il n'y avait pas de notes. Et ben c'était très très bien comme ça. Donc voilà, j'aime bien. Après, bon là, on est sur Fatal Fury Neo Geo, donc... Là, le mec, il parle d'un jeu, mais il sait même pas que c'est un jeu encore qui va marquer l'histoire, quoi. Donc, MicroKids, vu qu'apparemment, j'ai à peu près tous les épisodes, je vais pouvoir me les tartiner et vous faire un petit best-of rapide comme ça, histoire de rigoler un peu, et aussi, c'est très instructif, quoi. Alors, maintenant, on passe au focus. Donc, on va se concentrer tel Anne Frank sur une... sur une rubrique. Alors ce mois-ci, j'ai décidé en mon âme et conscience de checker un peu la rubrique courrier des lecteurs. Alors la rubrique courrier des lecteurs, c'est un peu voilà, c'est un peu le Twitter de l'époque en partie. Alors soit les gens ils disaient de la merde, ils pissaient un peu sur le magazine auquel ils écrivaient, ou bien ils posaient des questions très voilà, des questions que nous on chercherait en une seconde sur Google, ou on demanderait voilà, on irait sur le Twitter de Jason Schreier qui entend le moindre P résonner dans n'importe quel studio de jeux vidéo dans le monde. Courrier des lecteurs, je vous cite un petit peu, voilà, on va prendre la température. Donc, qui est ce monsieur ? Monsieur Tranquier. Alors, je trouve que pour le premier numéro de l'année, alors là on est chez Joystick, hein, vous ne vous êtes pas beaucoup foulé. Le numéro 23 ne comporte que 241 pages alors que le précédent en comptait 324. Joystick, ils ont tendance à publier ce genre de trou du cul et à leur faire des gros pavés pour leur répondre, quoi. En fait, ils feedent le troll à fond, quoi. C'est pas bon, ça. Enfin là, c'est pas du troll, c'est juste un gros con, mais... On lui explique simplement, rapidement, hein, que la taille du magazine, c'est plutôt justement 240 pages et pas 324, et que c'était le numéro du mois de décembre, donc c'était Noël, et l'actualité, c'était blindé, quoi. Les mecs, ils sont déjà blindés de boulot, et le mec, t'as fait des pages en moins, là, tu te fous de ma gueule. Alors, attends, regarde pas les magazines en 2022, hein, parce que, c'est compliqué, mais... acheter Canard PC. Même s'il n'est pas super épais, il est très qualitatif. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? Salut, j'espère que vous allez continuer Joystick aussi longtemps qu'il y aura des jeux vidéo. Si vous avez des problèmes financiers, n'hésitez pas à le dire. Je suis sûr que les lecteurs vous aideront. Et ben, on est en 1992, le financement participatif n'existe pas du tout. Genre, pas du tout, quoi. Et il arrivera... Alors, je sais pas s'il existait dans des sphères un peu obscures avant, mais il arrivera surtout avec Kickstarter dans les années 2010, quoi. Et bah le mec, il, voilà, Joystick, je sais pas, alors c'est Canard PC, ils font justement, Canard PC, si vous voulez, c'est un peu l'esprit de Joystick qui continue aujourd'hui. Ils fonctionnent avec l'aide du financement participatif, et ils ont raison, parce que toutes leurs campagnes sont couronnées de succès, et puis voilà, il n'y a aucun problème. C'est des gens sérieux, malgré leur titre de couverture totalement stupide. Du coup, je trouve ça intéressant que l'idée a été soulevée déjà à l'époque. Alors là, vous allez rigoler. On en est au point où donc Joystick traite du jeu console et du jeu PC, enfin micro-ordinateur, Amiga, Atari, etc. Et Joypad a été lancé quelques mois auparavant pour traiter de l'actualité console uniquement. C'est la même boîte. Du coup, vous voyez un peu le même avec le PC Master Race, avec la coupe de cheveux dorée et tout. Bah écoutez ça, vous dites... que ceux qui ont un micro achètent Joystick et que ceux qui ont une console achètent Joypad. Mais alors pourquoi laisser console news dans Joystick ? On n'en a rien à faire des consoles. Ensuite en dessous, quand allez-vous virer les consoles de Joystick maintenant qu'il y a Joypad ? J'espère. Alors ensuite encore un autre. J'espère que vous arrêterez de mettre les jeux sur console dans Joystick. Joypad est sorti, on n'en a rien à foutre nous des consoles. Oh les mecs ! Oh les connards ! Mais calmez-vous ! Alors, on a une réponse de Joystick assez pragmatique, je trouve. Alors, comme le mois dernier, le courrier était écrit en tout petit pour répondre à plein de questions. Et il est cette fois-ci écrit en très très gros pour répondre à une seule et unique question. Va-t-on se décider à virer Console News de Joystick ? La réponse est non. Faudrait que je vérifie, mais ils l'ont viré, hein, au bout d'un moment. Alors, ça parle de pognon, un peu plus loin. Console News est autosuffisant, c'est-à-dire que la publicité qu'il contient suffit à payer entièrement les frais qu'il occasionne. De plus, comme ça rend Joystick plus gros, on achète le papier à meilleur prix. Voilà, la pression coûte proportionnellement moins cher. Vous n'avez pas remarqué que des journaux comme Cosmopolitan, Elle, et la plupart des journaux féminins qui font couramment 400 ou 500 pages ne coûtent que 10 ou 15 francs. Alors, c'est des petits coquins, Joystick aussi. Là, c'est pour le mois de mars, ou pour le mois de février, je sais plus exactement. Ils ont fait un courrier des lecteurs où il n'y a que les lecteurs qui causent pour une fois. Et ils posent des questions, et du coup, ils répondent pas à leurs questions. Pourquoi avez-vous supprimé Je craque dans Console News ? Voilà, ils répondent pas, du coup. C'est vraiment des putains de trolls, ils en ont rien à foutre. Plein de questions, une page bourrée de questions, il y en a 30 à peu près, à la louche. Et aucune réponse. Voilà, là je vous lis un peu les trous du cul. Les trous du cul, c'est souvent dans Joystick qu'on les lit. Ça tient surtout à la rédaction et au choix qu'ils font dans la sélection des courriers publiés, évidemment. J'ai regardé un peu Player One, j'ai regardé Console Plus, et c'était des trucs plutôt cool. Juste, la Super Famicom sortira quel mois en France ? Est-ce que tous les jeux seront compatibles ? Est-ce qu'il y aura d'adaptateurs ? Pas mal de questions, juste très pratiques et très logiques, puisque voilà, la seule source d'information, c'est les magazines. J'ai épluché quelques mois comme ça, 6 mois sur plusieurs magazines, et franchement, voilà. Le plus drôle, ça reste quand même la sélection chez Joystick. D'une débilité sans nom. Maintenant, on va laisser Anne-Franck se reposer tranquillement en paix et on va passer au test. Et donc on lance la cartouche de Toki. Toki qui est vraiment un mec méga baraque, qui s'apprête à faire des choses apparemment avec une femme à genoux devant lui. C'est assez chelou. La terre tremble, un château chelou sort de terre, une main géante évidemment emporte qui ? Bah la meuf ! Et un sorcier le transforme en singe. Du jamais vu comme scénario à l'époque. Alors Toki est un action platformer sorti donc sur Mega Drive, testé dans les lignes de la plupart des magazines, de mars 1992. J'y ai joué. J'ai fait les 3 quarts, allez, je l'ai pas fini, parce que j'avais pas la foi de le recommencer, mais j'ai trouvé le jeu plutôt plaisant. Alors voilà, donc dans Toki, vous contrôlez un homme transformé en singe qui crache des boulettes façon un peu Metal Slug. Il peut les cracher dans pas mal de directions, donc droite, gauche, haut, et vous allez devoir franchir des obstacles comme ça dans un level. Toki n'a pas de point de vie, donc c'est-à-dire que s'il se fait toucher une fois, il meurt, il recommence le niveau. Vu comme ça, vous pouvez vous dire, oulala, ça a l'air dur. Bah, en fait, pour ce que j'ai fait en tout cas, donc sur les 3/4 du jeu, ça va. En fait, les niveaux sont pas très longs. Si vous allez dans les options au début du jeu, vous pouvez régler la difficulté et le nombre de vies. Donc vous pouvez vous bourrer de continuer de vie avant de faire le jeu. Et si vous voulez avoir un challenge un peu plus corsé, vous pouvez recommencer le jeu avec moins de vie tout simplement. Donc Toki va traverser différents environnements. Alors c'est de la plateforme assez classique hein, finalement. Il va ramasser des bonus qui vont changer son tir. Vraiment à la façon d'un shoot'em up. Là on a vraiment un esprit shoot'em up transporté dans un action platformer, ce qui est plutôt cool. On pourrait traduire ça par un run and gun, mais Toki, vu à la vitesse où il marche, on va plutôt appeler ça un walk and gun. On a un cheminement très classique. On a plusieurs environnements avec différents types d'ennemis qui ont leur pattern propre. Des items pour changer le tir comme j'ai dit, ou des items pour sauter plus haut. Par exemple, on a entre chaque monde un boss qui se révèle être anecdotique. Et plus vous avancez dans le jeu, plus vous allez quand même avoir des évolutions de gameplay. Par exemple, dans le deuxième monde, vous êtes dans une sorte de niveau vraiment fait de manière verticale. Donc on profite un peu du saut assez haut de Toki, d'éléments de décor qui vont permettre avec des poids de vous catapulter en l'air. Donc il va falloir bien gérer ses sauts. Faire attention aux ennemis qui sont hors screen. Il y en a assez peu, hein, c'est assez bien réglé. Mais de temps en temps, vous allez vous taper un connard hors screen parce que c'est la première fois que vous faites le niveau et vous allez mourir comme une merde. Ça, c'est interdit, hein. On retrouve un peu le délire qu'on avait eu sur Quakeshot, où vraiment les développeurs essaient de varier les phases de gameplay. Alors qu'on a un premier niveau plutôt horizontal, un deuxième vertical, on va avoir un troisième niveau uniquement dans l'eau, avec une physique un peu à la Alex Kidd pour ceux qui savent, donc où il va falloir se balader, tirer des boules dans l'eau, etc. En faisant attention de ne pas se faire toucher, hein, je rappelle, un kick égale une vie. Alors, je vous avoue, après avoir regardé un peu plus en profondeur des vidéos, c'est vrai que la dernière partie du jeu m'a l'air un peu salée, avec des ennemis et des patterns avec des bouboules qui commencent pas à faire du Danmaku, mais un petit peu quoi, c'est un peu Fury dans l'esprit, c'est un peu la merde, et des picots qu'on voit un peu partout. Voilà, c'est pas vraiment un cauchemar, c'est pas, je sais pas, le jeu Simpson avec Bart ou impossible à faire, c'est pas les Tortues Ninja si vous voulez, on est quand même à un niveau de difficulté en dessous. Les boss jusqu'au bout, ça reste un peu de la merde. Et finalement, voilà, quand on connaît bien le jeu, en une heure, c'est torché, quoi. Mais à condition de pas mourir, donc vous allez mettre quelques heures. Et en général, comme c'est votre seul jeu pour quelques mois, vous allez le poncer, tout simplement. Donc Toki, moi j'avais vraiment peur de jouer à Toki, j'avais traîné les pieds, même sur Twitter, j'en avais parlé, j'avais dit « Putain, je regrette déjà cette décision. » Et en fait, j'ai passé un bon moment. Il y a une zig qui tourne un peu trop en boucle, mais je la trouve cool. Il y a un truc, c'est celle que vous avez écoutée en intro. Moi, je l'aime bien. J'aime bien cette petite zig. Il y a une petite boucle musicale sympathique. Les hitbox sont assez larges. Alors, c'est assez large aussi. Bon, on se fait un peu toucher parfois pour rien. Mais c'est surtout qu'au niveau plateforme, on a des gros pieds et on risque moins de tomber dans le vide comme une grosse merde au centimètre près. Donc là, c'est assez généreux à ce niveau-là. Le jeu est assez joli, enfin j'imagine, hein, pour de la Mega Drive, hein, comme les jeux sont affreusement laid sur Mega Drive à côté de la Super Nintendo. Je rigole, ça va, je troll. Oh là 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 là. Hey, tout de suite, ça, voilà. Tout de suite, j'ai vu votre prépuce vibrer là. Arrêtez, calmez-vous. Et ce qui est bien, c'est que Toki, pour la science, si vous voulez y jouer, et ben vous pouvez y jouer légalement. Waouh! Vous pouvez l'acheter, il est en ce moment d'ailleurs sur PlayStation Store à 2€. Pour la version remasterisée en plus. Remasterisée, j'entends les graphismes entièrement refaits. mais avec un gameplay identique à l'ancien. Voilà, en fait, c'est un peu la formule Monster Boy, Wonder Boy même plutôt, où on reprend voilà, pixel par pixel près l'ancienne version. On pourrait intervertir les deux, ce serait pareil au niveau gameplay. Mais au moins, on a des graphismes dignes de ce nom, dessin animé, etc. Donc, je vous le conseille à 2 balles en plus pour la science, allez. Alors, je manque à tous mes devoirs et je ne parle même pas d'un test de Toki que j'avais mis de côté dans Joypad. Je vous lis 2 extraits à la con. C'est un test rédigé par JM Destroy. Assez connu dans le game quand même. Alors, juste le début du test, il écrit « Affreusement mutilatrice, votre corps ne correspond plus à ce qu'il était. D'un beau jeune homme plein de vigueur et de vie, vous vous la transformez en une sorte de mutant tout de poils vêtus, qui à vue de nez ressemblerait bien plus à un singe de cirque, un gorille dirons-nous, qu'à un bellâtre à faire tomber toutes les minettes dans vos bras par simple claquement de doigts. Cette condition difficile qui est désormais la vôtre devient de plus en plus intolérable. Le sommeil est long à venir et vous ne cessez de rêver à votre état. Tous les jours, en vous réveillant, une glace en face du pieu qui vous fait réfléchir sur votre sordide condition. » Le mec, il parle même pas du jeu. Il part en sucette dès le début. C'est génial. Qu'est-ce qu'il raconte vers la fin du test? Bien que les couleurs paraissent un peu ternes mais aux yeux de certains, les graphismes sont particulièrement fins et laissent transparaître chaque détail du jeu. Parfaitement animé, Toki est également d'une maniabilité remarquable. Répondant à la perfection à toutes vos commandes, cette réalisation de Sega est très soignée. Hyper agréable à jouer, hyper sympa à manœuvrer. Toki est un jeu comme on aime en avoir sur la console 16 bits de Sega. Donc 18 en graphisme, 18 en maniabilité, 16 en son, 17 en animation. Et en face, chez Génération 4, on lui a mis un petit 68% dégueulasse. Alors je ne sais pas pourquoi. Court extrait, mais attention, à chaque fois que vous êtes touché par un ennemi, vous recommencerez depuis le début du stage. Le moindre contact vous fait perdre directement une vie. Une adaptation plutôt bâclée dont le seul point fort réside dans sa jouabilité pour les amateurs. Parce qu'apparemment, il est sorti sur autre chose avant, ce Toki. Ouais, je ne sais pas. En tout cas, 68%, à l'époque, c'était pas tous les jours. Hein. Je suis quand même bien content avec ces histoires de notes que les sites en donnent une unique. Ils ont arrêté de diviser en parlant du... Ils parlent du son. En fait, quand tu dois parler du son, des graphismes, du gameplay, pas besoin de faire une note. Parle-en dans le test. Une note générale. Après, les notes, comme on a bien pu voir, il y a des bons côtés. Donc, tu sais, tu te dis, tiens, je sais pas quel jeu jouer. Hop, tu tapes sur Metacritic, tu vas regarder. Et puis, tu te dis, oh, tiens, la Last of Us 2, ça avait l'air bien pourtant. Pourquoi il y a une note de merde? Ah, c'est parce que il y a un personnage transgenre et du coup, que les gens ont décidé de lui mettre des zéros à répétition pour cette raison. Alors, bande de sacs à merde, vous vous ennuyez dans vos vies, hein, je le vois bien. Mais voilà, trouvez-vous un hobby. Tout simplement, trouvez-vous un hobby, parce que là, ça devient gravissime. Je fais surtout allusion au review bombing, donc qui va punir un développeur pour ce qu'il a fait il n'y a pas longtemps. Il y a le développeur de Domina qui a fait une réflexion, c'était même dimanche là, qui a fait une réflexion débile sur les désirs des femmes et que en gros ils veulent, enfin voilà, il faisait le mal Sigma en gros dans son tweet. Putain, le jeu il s'est fait démolir sur Steam juste derrière en extrêmement négative. Alors voilà, il y a des bons, il y a des mauvais côtés. Est-ce que les notes ça doit être un tribunal pour le comportement? Est-ce que on peut détacher l'artiste de l'homme? Ou de la femme, bien sûr. Évidemment que non. Sinon, tout le monde aurait des magnifiques peintures d'Adolf Hitler dans son salon. Évidemment. Je crois que s'il y a vraiment une cartouche que beaucoup de gens avaient, surtout ceux qui avaient probablement un frère ou une sœur, C'était bien Chip and Dale hein, sur NES avec les Tortues Ninja. Je crois qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui l'ont eu. Petit rappel quand même, c'est Tic et Tac. Les deux petits rongeurs aventuriers qui vont bientôt avoir un film. Vous allez regarder sur YouTube Tic et Tac. Ils ont un putain de film d'animation mélangé à de la réalité, un peu, vous savez, un peu comme à la. Comment ça s'appelait déjà? Roger Rabbit? Oh là là, Roger Rabbit, incroyable aussi. Un mélange 2D, 3D, ça a l'air débile! Et du coup, ça a l'air pareil, quand même, pas trop mal. Alors, Chip and Dale, du coup, sur NES, c'est un jeu de joueurs. Et ça, c'est cool, parce qu'on n'en avait pas des jeux où on pouvait jouer à deux. Il y en avait quand même pas mal, je vous avoue, hein, mais c'était surtout des jeux, des faux modes de joueurs. C'était jouer chacun son tour et une comparaison de score, par exemple. Alors que Chip and Dale, on pouvait vraiment jouer à deux et c'était vraiment à deux, quoi. On avait une interaction entre les personnages qui pouvaient se gêner, qui pouvaient s'entraider aussi. Vous pouviez évidemment prendre votre pote et le balancer dans le vide. Ça, c'est cool. Vous pouviez le stun, enfin l'assommer avec des caisses. Vous ramassez des caisses et vous lui lancez dans la gueule. Donc, il y avait toute une gestion de l'autre qu'il fallait faire. Un jeu d'équipe et un jeu de troll, quoi. Et ça, c'était trop, trop cool. Les graphismes, franchement, on est sur NES. C'est très coloré. On reconnaît bien Tic et Tac. Franchement, c'est photoréaliste, hein, si je puis me permettre l'expression pour un dessin animé. Non, je rigole, hein, je troll un peu, mais le jeu était vraiment très très bien. Alors, son problème, c'était sa durée de vie, parce qu'il n'était pas très dur, et du coup, on en faisait vite le tour. Heureusement, il y avait plusieurs chemins possibles. Vous n'étiez pas... voilà, il y avait un chemin A, un chemin B, par exemple, à certains endroits, et vous deviez recommencer le jeu pour vraiment plusieurs fois pour faire tous les niveaux du jeu. Et pour les maîtriser, de toute façon, il y avait moyen de passer quand même quelques heures. Je crois que c'est quand même dans la moyenne basse au niveau durée de vie. Mais bon, le fun quand même, vous pouviez ramasser plein de... Voilà, vous baladiez dans des niveaux où vous étiez tout petit, en fait. Vous baladez dans des cuisines, dans des casinos, il y a des boss. Alors les boss étaient un peu relous parfois, mais... Il y avait plein d'environnements, vous sautiez de casserole en casserole, vous activiez des robinets pour déverrouiller l'accès à un passage. Il y avait vraiment des idées, il y avait vraiment des idées. J'allais dire pour l'époque, c'est pour ça là j'essaie de me rattraper, de dire autre chose, mais bon je suis désolé, mais pour l'époque, on fait un truc d'il y a 30 ans, on risque de le dire plusieurs fois. Alors là je vous avoue en fait, quand je parle d'un jeu, je me mets des images en même temps de Let's Play. Comme ça, ça m'inspire bien, même si j'y ai rejoué évidemment il n'y a pas si longtemps. Je l'ai refait sur NES, hein, parce que j'ai la NES avec Chip and Dale et deux manettes, je l'ai dans la chambre à côté là. Alors voilà, moi je suis vraiment pas le genre à regarder les trucs, je stocke rien. J'achète, je vends. Mais du coup, les gens qui font pas comme ça et qui parfois gardent, tu te retrouves à aller hey chérie, tiens, t'avais la NES? Ah ouais, on l'a encore, comment ça? Tu vas à la cave, enfin dans son garage, et il y a la NES qui est encore dans sa boîte d'origine en excellent état, bien rangée dedans, avec les jeux et tout. Tu fais, ah ouais quand même, tu sais, en 2022 ça vaut des sous, hein. Enfin bref, très très cool du coup d'avoir pu récupérer une NES. Qu'est-ce que je peux vous dire sur ce Chip and Dale? On pouvait saisir des objets, parfois il y avait des marteaux qu'on pouvait, on pouvait creuser creuser des passages. On avait des niveaux bonus pour gagner des vies, les vies qu'on aurait perdues. On avait quelques niveaux quand même vers la fin où, avec des plateformes, je sais pas si vous vous souvenez, on a une sorte de niveau vertical, une sorte de tube vertical en ferraille là, avec des plateformes un peu à la Megaman qui apparaissent et disparaissent. Et c'est dégueulasse, t'arrêtes pas de... En fait... Tu meurs pas si tu tombes, mais t'arrêtes pas de tomber, de monter, putain. Et en fait, voilà, en fait, ce jeu, pour moi, c'est vraiment pratiquement la perfection au niveau multijoueur. Je vous explique pourquoi, c'est parce que j'ai encore des souvenirs d'avoir joué avec mon frère à ce jeu, alors que j'ai joué avec mon frère à beaucoup de jeux, mais il y en a très très peu qui vraiment pour lesquels j'ai avoir des souvenirs vifs, des souvenirs vraiment où je me souviens d'avoir joué, d'avoir fait telle ou telle action avec mon frère. Et ça c'est assez ouf. Il y a ce jeu, il y a Track and Field, qui était vraiment un jeu de bourrinage de boutons sur NES également, Track and Field 2 pour être précis. Et c'est vraiment un créateur de souvenirs en commun, et ça c'est assez cool. Parce qu'il faut savoir qu'après mon frère, quand même, avec le temps, c'est devenu un gros con. Mais Excellent jeu. Est-ce qu'on peut y rejouer maintenant? Si vous voulez jouer à Chip and Dale, je pense que le jeu est disponible peut-être dans l'Afternoon Disney Collection. Je regarde tout de suite. Ah, effectivement, si vous voulez jouer à Chip and Dale, donc qui avait été développé à l'époque hein, par Capcom, hein, c'est disponible un peu sur tout, hein, PC, PlayStation, Xbox One. Vous pouvez jouer via la Disney Afternoon Collection. Donc vous allez pouvoir jouer dans cette collection de jeux, à mon avis qui doit être à genre à 20 balles. Vous pouvez jouer à Chip and Dale, donc à DuckTales, Tailspin et à Darkwing Duck. J'ai essayé de jouer à Darkwing Duck il n'y a pas longtemps. Putain, j'ai détesté. Peut-être en reparlerons-nous un jour. Avant de conclure sur ce Chip and Dale Rescue Rangers, on va aller faire un tour sur un test donc, réalisé dans le magazine Joystick de mars 92. Je vous le lis entièrement, hein, un petit peu de lecture, ça fait pas de mal et je vous donnerai les notes, etc. Du bon, du très bon, vous en rêvez. Ne cherchez plus, en voilà, avec cette nouvelle super production de Walt Disney et de la célèbre firme Capcom, dont la réputation n'est plus à faire, l'éditeur nippon frappe fort, très fort. Si vous aviez craqué pour DuckTales, inutile de préciser ce qui va arriver lorsque vous tomberez devant Chip and Dale. Aujourd'hui, pratiquement tous les jeunes connaissent les célèbres Rangers du risque. Vous savez, la petite bande de rongeurs toujours prête à soutenir la veuve et l'orphelin, et dont les principaux belligérants, ok, sont Chip and Dale, plus connus en France sous le nom de Tic et Tac. Une fois encore, nos pauvres amis se retrouvent confrontés à une bien étrange situation. Le chat de leur voisine Mandy a disparu, et de surcroît, une faune d'estres biscornus et étranges se développe à une vitesse grand V dans la ville. Robots chiens sèment la zizanie, des souris métalliques se baladent sur les lignes de haute. Sur les lignes de haute, ok, très bien. Et pour clore le tout, toute une foultitude de vilains pas beaux perturbe la vie quotidienne de bien des habitants. Fat Cat, ou Catox, donc le bad guy, l'ancestral ennemi juré de Tic et Tac, serait-il à la base de cette sinistre disparition? Chip and Dale se présente comme un jeu de plateforme pur et dur avec ce que cela comporte. Nos deux héros devront faire preuve d'ingéniosité et de courage pour déjouer le plan machiavélique de ce gros scélérat de Matou. Entre parenthèses, Boo le vilain. Bon nombre d'options leur seront accessibles, de même qu'ils pourront faire appel à leurs amis en fonction de certaines situations. Par exemple, Zipper ou Rusor éliminera automatiquement tous les adversaires présents à l'écran. Il existe aussi un moyen très simple de récupérer des villes, il suffit pour ce faire de récupérer un total de 50 fleurs ou de réunir 10 étoiles pour obtenir une vie. Wanapa. Certains objets serviront de projectiles très efficaces contre les affreux et permettront aussi de passer un obstacle. Ce qui fait nul doute dans le point fort de ce jeu délirant, c'est l'option de joueur qui offre la possibilité, comme chacun sait, de s'éclater à deux simultanément tout en se foutant sur la tronche, histoire de régler ses comptes, si vous voyez ce que je veux dire. Décidément, Capcom reste incontestablement l'un des meilleurs éditeurs développeurs pour la Nintendo 8-bit. C'est pas faux, hein. Les graphismes raviront les amateurs et les fervents de Walt Disney, qu'il s'agisse des décors ou des personnages qu'on reconnaît sans la moindre hésitation, le style de la firme américaine qui a su, par le passé, faire rêver petits et grands. Quant aux animations, elles feraient sans doute l'unanimité, c'est rapide, fluide et d'une maniabilité à la rude épreuve. Surtout lorsque l'on joue à deux, chacun des joueurs peut prendre l'autre dans ses papates fortes et musclées, histoire de lui baiser le front, afin de l'envoyer tel un obus sur la face abrutie d'un des sagouins d'en face. Putain, vache. Et les mecs, ils sont rebous quand même. Je ne vous ferai pas de dessin à propos des effets sonores et des musiques, entre parenthèses, balèzes, c'est tout simplement cool. Personnellement, un must à ne pas manquer. Ouais, effectivement, c'était vraiment très très bien comme jeu, hein. On n'en doute pas. Donc, il y a deux notes. Une note pour un joueur et une note pour deux joueurs. 89%, très précis, hein. Pour un joueur, 94% quand tu joues à deux. Graphisme 19, maniabilité 18, son 17, animation 16. C'est marrant parce qu'ils utilisent les mêmes notes que dans MicroKids. Tout le monde s'est entendu pour dire que graphisme, maniabilité, son, animation. Et un intérêt général après. Étrange. Donc voilà, c'était tout pour Chip and Dale. Thank you. Alors, Soul Blazer, que moi je connais sous le nom de Soul Blazer, sous quel nom l'avez-vous connu? Dites-le moi en commentaire. Donc même s'il est sorti bien plus tard en France, traduit d'ailleurs en français, Soul Blazer est quand même sorti sur Super Famicom au début des années 92. Au début de l'année 92 même. Il a été édité par Enix, donc le concurrent en chef de Square Soft à l'époque, avant que Square Soft l'avale et devienne Square Enix, à qui on devait donc la série des Dragon Quest, entre autres. Et ce Soul Blazer donc, a été développé par le studio Quintet. Quintet à qui on doit Actraiser 1 et 2. Et Soul Blazer est donc ce que les gens appellent une sorte de trilogie, alors qu'il n'y a pas de lien scénaristique évident entre ces épisodes, la trilogie Soul Blazer, Illusion of Time et Terranigma. En fait, c'est juste que c'est les mêmes développeurs qui ont un goût prononcé pour l'action RPG vu du dessus à la Zelda, avec des éléments de RPG à la Dragon Quest, avec des levels à passer, etc. Donc, c'est surtout ça. C'est surtout ça les points communs entre ces trois jeux. Alors, ce Soul Blazer, donc, a été extrêmement bien reçu. Alors, donc, pour Soul Blazer, qu'est-ce qu'il raconte dans la presse, notamment dans Joystick? Alors, vous allez me dire... Eh, dis donc, t'en as pas marre de parler que de Joystick et Tilt et Console Plus et tout? Bon, on en parle quand je cite les news, je cite également Player One, sans vraiment à chaque fois dire de quel ou tel quel magazine ça, il s'agit. Mais c'est pas ma faute si Joystick pond des tests de meilleure qualité. Test de Soul Blazer par Joystick. Un tas de raitons, enfin des sommets avec la fabuleuse 16 bits de Nintendo, plus connue sous le nom, il est vrai, de Super Famicom. Il n'en est pas moins vrai qu'avec la venue sur notre marché de la dernière super production de Enix, éditeur qui, je le rappelle, est à la base du somptueux Actraiser, les esprits retors devront se faire définitivement à l'idée que la Super Famicom est une excellente console. Mais revenons à nos moutons. Soul Blazer, présenté comme la suite d'Actraiser aux States, n'a pourtant rien à voir avec son prédécesseur, si ce n'est qu'il s'agit de la même équipe de programmeurs. Voilà, c'est exactement la même chose, c'est exactement ce que j'ai dit. Bref, les amateurs d'aventure à la sauce Zelda, délicatement relevé avec du IS, YS, hein, pour ceux qui connaissent, trouveront là de quoi combler tous leurs rêves les plus fous. Dans la mesure du possible, évidemment, ok. Mais trêve de bavardage, commençons. Une fois encore, les forces maléfiques qui hantent les entrailles de notre pauvre planète ont décidé de semer la zizanie. Et quelle zizanie, mes aïeux! Un vrai champ de bataille pour moines en pèlerinage aux folies quoi? Aux folies bergères! Non content de venir troubler le paisible repos des habitants de la vallée secrète, un apprenti démon suppôt de Griboudinguetard, le grand... Eh oui, le Satan n'est pas toujours de la fête, la preuve... C'est permis en prime de les projeter dans une autre dimension, voire même pour certains de les transformer en divers animaux. Il va sans dire qu'on ne trouble pas l'ordre universel des choses sans en payer le prix. Ah, il passe rapidement sur le scénar, hein, parce que c'est pas tout à fait ça, on en reparlera après. Seulement, comme dans tout beau conte de fées qui se respectent, les gentils peuvent toujours compter sur le courage et la force et l'esprit d'un vaillant et preux chevalier. C'est ainsi qu'après avoir reçu une mission de retrouver les 7 gemmes sacrées, notre héros se lance dans l'aventure. Vous incarnerez donc ce dernier, et votre rôle consistera dans un premier temps à libérer les habitants de la vallée et ensuite à détruire la bête. Cependant, avant de parvenir à ce résultat, le joueur devra se munir d'un bon nombre d'objets ainsi que d'armes. Dans l'ensemble, on notera une très grande similitude avec YS, donc, dans le déroulement des actions. Chacune des régions visitées devra être défaite de l'un des sbires démoniaques à la solde du vilain Pabot. De nombreux va-et-vient seront d'ailleurs nécessaires. Mais ce que j'ai fortement apprécié, c'est l'idée de sous-scénario qui, par le biais de dalles magiques, vous montre les opérations que vous devrez effectuer dans un ordre précis. Cette façon de procéder vous permettra de progresser sans jamais vous trouver réellement bloqué dans telle ou telle action. Réalisé avec le plus grand soin, Soul Blazer se révèle, à mon avis, comme le meilleur du genre. Si c'est mieux que Zelda, c'est pour dire, les musiques sont grandioses et vous transporteront au 7ème ciel. Ok. Quant au graphisme et animation, je peux vous assurer que les programmeurs de Enix se sont littéralement défoncés pour vous offrir ce chef-d'œuvre. tout y est parfait et fabuleusement animé jusque dans les moindres détails. C'est carrément du délire, collez votre œil, histoire de mater. Pour ma part, je n'avais jamais encore vu ça et pourtant ce n'est pas mon premier. Quoi qu'il en soit, sachez tout de même que les textes sont en nippon, mais qu'ils ne feront pas le moins du monde obstacle dans votre quête. Bref, un titre qui vaut son pesant d'or. Donc test de Sylvain Alain. Note de 96%, graphisme 19, maniabilité 16, son 19, animation 17. Parlons-en de ce cher Soul Blader. Alors je l'ai eu en japonais. Je l'ai acheté sur Super Famicom, on avait un adaptateur pour les jeux japonais qu'on a eu, je crois, en même temps que Dragon Ball Z Super Butoden, le premier. Ou bien on me l'avait prêté, enfin je sais plus exactement, c'est vieux bordel de merde, ça fait 30 ans quand même. Donc Soul Blazer, c'est vraiment comme il dit, hein, c'est un genre de Zelda vu du dessus, donc vous commencez. Pour le scénario, en fait, c'est le roi d'un royaume qui sombre un peu dans la corruption, voilà. Il se laisse un peu soudoyer par le démon. Enfin, alors pour être précis, le mec, il a envie de pognon, tu vois. Il est un peu comme n'importe quel politicien. Il veut du pognon et du pouvoir. Donc le pouvoir, il l'a, mais il dit, bon, voilà, vas-y, je veux plus de pognon. Donc il kidnappe le grand inventeur, le docteur Léo, de son royaume. Et il le force à créer une machine pour invoquer le diable, en gros. Il arrive à le faire, donc voilà, tranquille, hop. Il invoque le diable et le diable lui dit, bon bah, si tu veux, je peux te filer une pièce d'or par être vivant de ton royaume. Et donc le mec, boum boum boum, il se doute pas que quand t'as plein d'or mais que t'as plus personne autour pour le dépenser, ça ne sert à rien. Mais bon, nous on est envoyé par Dieu, en gros, hein. Basiquement, on est un envoyé de Dieu et on va ramener un par un les gens, quoi. Qu'ils ont été capturés, voilà, leur esprit ou eux-mêmes ont été capturés et sont dans des repères de monstres. Donc on commence dans un village, en fait, vous arrivez, tout est vide. Alors c'est ça qui est sympa, c'est qu'en fait, chaque morceau du jeu, ça va être une ère totalement vide quand vous allez arriver. Et quand vous allez explorer les donjons, vous allez libérer les personnes au fur et à mesure, et ça va construire des maisons, des pots de fleurs, un moulin, etc., etc. Et une fois que vous aurez libéré toute la région, quand vous partirez, et ben vous aurez vraiment un vrai village plein de vie devant les yeux. Ça, c'est vraiment pas dégueulasse, ça. Donc il y a plusieurs univers, donc comme je vous ai dit, bon, c'est un peu la prairie au début, on a un deuxième niveau dans la genre forêt, marécage un petit peu, marécage plutôt, ouais c'est ça. Chaque monde se termine par un boss, on passe des levels en tapant des mobs, plus on tape de mobs, plus on gagne d'XP, voilà. Après je ne sais plus si on a vraiment la possibilité de farmer, parce qu'en fait, quand vous arrivez dans un donjon, les monstres par zone arrivent depuis des téléporteurs. Et si vous les tuez tous, ben, le téléporteur s'auto-détruit et du coup il n'y a plus de mob. Du coup on a également pas mal d'armes. En fait dès le début on croise un vieux qui va se transformer en boule et en fait ça va être votre magie en gros. Une boule qui va graviter autour de vous et vous allez pouvoir au fur et à mesure du jeu apprendre différents sorts de feu, glace, etc. Et vous pourrez choper des nouvelles épées, armures, enfin voilà, il y a moyen, il y a du matos. Donc il y a un monde dans l'eau également, il y a une montagne, enfin il y a vraiment, voilà. Vraiment, vous en avez pas pour votre argent. Après, le jeu n'est pas super long, selon How Long to Beat, c'est 12 heures à peu près. Donc vous avez 4 ou 5 grandes zones, je sais plus exactement, je regarde en même temps en fait. J'en ai vraiment d'excellents souvenirs. C'est ce type de jeu, c'est ce genre de RPG où finalement, vous vous dites, bon bah, si c'est en japonais, je vais en chier quand même. Mais non, c'est assez dirigiste, c'est assez en ligne droite. Vous rentrez à un endroit, vous terminez le donjon, et une fois que vous l'avez terminé, vous niquez le boss, vous passez à la zone suivante. Vous ratez un peu le lore, parce que chaque habitant que vous allez libérer va vous parler en fait. Du coup, ça, voilà. Donc, depuis le temps, il est sorti en français. Malheureusement, il n'est pas disponible en dehors de l'émulation ou de la cartouche originale. Comme d'habitude, si vous voulez jouer, bah, vous vous démerdez. Alors, au passage, si vous êtes amateur, dans le joystick de mars 1992, vous aviez un interview. Comment il s'appelle ? Bah, en fait, voilà, dans le joystick de mars 1992, vous aviez un dossier sur H.J. Giger, donc le designer de Alien entre autres. Il parlait principalement de son prochain jeu, c'était une preview de Cyber Dreams The Dark Seed. J'ai pas le temps de vous lire tous les dossiers qui passent, mais je peux vous donner des petites indications. Avant de passer au dernier test, on peut passer rapidement sur les tests un peu moins mémorables, moi je trouve, de ce mois de mars. Alors en bref, nous avions quelques petits tests, nous avions Black Crypt, qui est simplement le premier jeu de Raven Software, que vous connaissez aujourd'hui pour son travail sur Call of Duty Warzone, ouais, qui était connu dans les années 90 pour ses FPS, Fantasy, Exen et Heretic. D'excellents jeux sur lesquels, à mon avis, on reviendra lorsqu'ils passeront la barre des 30 ans. Alors, j'ai voulu me taper Black Crypt, mais il n'est disponible que sur Amiga. Et même en passant par l'émulation, on doit se farcir des changements de disquettes de sauvegarde, etc. C'est incroyablement long, c'est très pénible. Du coup, malgré ma motivation, je n'ai pas pu aller au bout. Du coup, à la place, je me suis tapé les trois quarts du jeu Dungeon Master, qui a été retapé un petit peu en Java par un fan. Du coup, c'est à peu près... C'est le même matériau d'origine, hein, c'est juste des textures un peu lissées. Et j'en parlerai sans doute une prochaine fois, mais c'était une bien belle expérience qui s'est soldée sur un give-up dû à un manque de nourriture dans le jeu. Au même mois, on avait un nouveau jeu de Richard Garriott, donc de Origin, Ultima 7. Alors, pareil, je voulais jouer à Ultima 7, je voulais vous en parler. Mais le jeu, alors, autant les jeux japonais sur console 16 bits, ils vieillissent bien. Regardez Ultima 7, la gueule qu'il a. Déjà, il a une perspective totalement inconnue. Je ne connais pas cette perspective, il faudra m'expliquer. Le 3 quarts inversé de l'intérieur, là. Les personnages, on dirait qu'ils regardent dans le ciel, dans le sol, je comprends pas. Et les pixels et tout, enfin, j'imagine que c'était très bien à l'époque, mais moi, je trouve ça dégueulasse. Et on avait aussi au passage un petit 4D Sports Driving qui se prend un monumental 61% par Christian Roux. Tu te calmes, hein, mon monsieur Christian. Ouais. Hard Driving, nanana. Ouais, bah ouais, mais en fait, c'était un jeu de voiture en vue en 3D. La 3D de l'époque, quoi. Hein. Mais c'était cool, on pouvait faire des courses un peu à la Trackmania avec des... En plus léger, bien sûr, avec des loopings, des trucs comme ça. Je me suis bien éclaté à l'époque. Je l'avais fait sur PC. Allez, on n'attend pas plus et on se dirige vers Dune.
Un commencement est un moment d'une délicatesse extrême. Sachez donc que l'on est en l'an 10191. L'univers connu est gouverné par l'empereur Padishah Shaddam IV, mon père. À cette époque, la plus précieuse substance de l'univers est l'épice, le mélange. L'épice accroît la longévité. L'épice amplifie le champ de conscience. L'épice est vitale au voyage dans l'espace. L'épice a fait des navigateurs de la guilde spatiale des mutants après 4000 ans d'usage, car ils absorbent le gaz orange qui leur donne le pouvoir de replier l'espace, c'est-à-dire de se transporter n'importe où dans l'univers sans se déplacer. Ah oui, j'oubliais de vous dire, l'épice n'existe que sur une seule planète dans tout l'univers. Désolée, aride, cette planète possède de vastes déserts. Caché dans les cavernes des rochers de ces déserts vit un peuple connu sous le nom de Fremen, qui depuis longtemps prophétise la venue d'un homme, d'un messie, qui les conduirait vers la véritable liberté. Cette planète, c'est Arrakis, connue aussi sous le nom de Dune.
Donc c'est marrant parce que 30 ans après, on a encore une actualité sur Dune, qui est le film de Denis Villeneuve, qui était plutôt pas mal, plutôt pas mal. Même en ayant lu les livres, les livres de Dune, je me les suis tapés il y a 3 ans. J'ai lu les 6 tomes principaux écrits par Frank Herbert. J'ai pas lu du tout ce qui a été fait par son fils. Je trouvais ça très très bon, un peu compliqué à rentrer dedans avec tout le vocabulaire. Je pense que ce que les gens ont dû ressentir au cinéma, ingurgiter tout un nouvel univers avec son propre vocabulaire, tout ça à la truelle en 2-3 heures. C'est un peu compliqué. David Lynch, il y a 30 ans, il avait adapté Dune au cinéma. Je l'ai regardé il y a 3-4 ans aussi, Dune, sur Netflix. Celui de David Lynch. Je l'ai trouvé vraiment à chier. Genre de la grosse merde. Non, mais j'exagère un petit peu. Vous allez vous dire, mais c'est un gros connard, ce mec. Excusez-moi, mais là... l'esthétique années 80 là, moi je l'aime bien, hein. Moi je l'aime bien la plupart du temps, mais là je sais pas, il y a un truc qui passe pas. Je sais pas si c'est le fait que Sting et la coupe de cheveux de Adrien Quatennens là, je sais plus comment il s'appelle, je sais pas. Déjà ça pour le charisme, déjà on repasse, mais non, j'ai pas trop compris le délire. J'ai pas trop compris le délire de ce Dune de David Lynch. Mais l'intro est très bien. L'intro que vous venez d'entendre, en fait, que je vous ai mis, c'est l'intro de Dune sur Mega CD. Alors voilà, c'est là où on va dire Dune sur Mega CD, mais là on teste pas sur PC. Bah déjà, vous en savez rien, ce que je vous l'ai pas encore dit, mais effectivement, c'est Dune sur PC. Plus tard, il sort sur Mega CD avec... grâce au support du CD, justement, les voix digitalisées et des scènes vidéo issues du film pour l'introduction du jeu. Des fans sur abandonwaregame.org ont fait un taf de ouf, c'est-à-dire qu'ils ont pris les voix de la version Mega Drive et les ont implantées dans la version PC. Franchement... les mecs, les passionnés, c'est un truc de fou. Parce que c'est un travail de dingue. Hein. C'est du gros taf. Hein. Et parce que les voix ne concernent pas seulement l'introduction. Les voix, ça concerne tous les personnages pendant tout le jeu. Du coup, merci à eux. J'ai pu jouer quelques heures. J'ai joué 2 heures. 2 heures à ce jeu. Quand on le connaît bien, en 5-6 heures, c'est terminé. Selon le test de joystick, qui date en vrai de avril, mais bon, ils en parlaient déjà pas mal en mars. Ils attendaient en fait Dune comme le Messi, ils en pouvaient plus, les mecs. Ça s'est révélé être un bon jeu, hein, d'ailleurs. Mais le testeur de joystick disait qu'on en avait pour Obama 50 heures de jeu. Alors moi, j'appelle au mensonge. J'appelle au mensonge et parlons de la boucle de gameplay de ce Dune. Alors, le jeu est joli. C'est un point and click, en fait, aventure, où vous ne voyez pas le personnage, vous voyez à travers ses yeux, vue FPS. Mais c'est à travers des écrans fixes, et vous allez pouvoir vous déplacer un peu à la liste d'écran en écran. Donc la boucle de gameplay de ce Dune, on va avoir une phase où on va parler aux personnages qui vont nous dire « bah il faut que t'ailles là-bas, il faut que tu parles à machin ». Donc voilà, au niveau difficulté, franchement, il n'y en a pas particulièrement. Vous faites ce qu'on vous dit et en général, ça va bien se passer. Il y a une sorte de gestion de troupes. En fait, vous allez vous déplacer de Sietch, donc c'est les repères des villes souterraines cachées du peuple Fremen, donc les habitants d'origine de Dune. Vous allez aller les voir et vous allez leur dire « Hey, salut, tu veux faire partie de mon crew ?» Et 90% du temps, ils vont vous dire « Oui, tout de suite, évidemment. Évidemment, what dib. Du coup, hop. Et après, vous avez une carte où vous allez devoir trouver des machines pour affiner ou pour récolter l'épice. Donc, le fameux épice, la substance qui permet le voyage interstellaire dans l'univers. Donc, sans ça, pas de voyage supraluminique, quoi. Du coup, il y a une sorte de petite gestion où vous attribuez à des troupes, des emplacements, des trucs. C'est assez naze, honnêtement. L'intérêt du jeu, c'est quand même c'est les graphismes, c'est vraiment très joli, les dialogues, etc. Tout ça, ça respecte vraiment bien l'univers de Dune. De là à dire qu'on dépasserait les 10-20 heures, même en prenant son temps, en jouant avec ses doigts de pied, c'est vraiment se foutre de la gueule du monde. Mais bon, après, je sais pas à quoi il tournait, si c'était de la coke ou de la... Pff, du sang Pellegrino, je ne sais pas. je ne sais pas. En tout cas, le principe du jeu, c'est on suit l'intrigue de Dune tout en essayant de rassembler les peuples Fremen pour contrer la menace Harkonnen. Plutôt bon jeu, un des premier jeu du studio Cryo qui a été créé pour ça. Du coup, je vous ai dégoté dans le magazine Tilt numéro 100, donc Mazel Tov, hein, en mars 1992, c'était le numéro 100 de Tilt déjà. Le magazine de référence des jeux micro-ordinateurs, dans lequel vous connaissez Marcus de Boulay, qui était rédacteur là-bas. Bon. Alors, qu'est-ce qu'il raconte de beau ? Donc ouais, l'apparition, voilà, c'est vraiment, d'une, c'est l'apparition de Cryo, qui par la suite sortira des jeux vraiment dans le même délire. Jeu d'aventure, des belles cinématiques de transition quand vous vous déplacez, c'est beau, c'est en images de synthèse, on s'y croirait. Des énigmes assez... basique, etc. Enfin, un truc, mais... Voilà, des jeux où on bloque pas trop, c'est des expériences narratives très sympathiques. Et ça, parfois, entre deux Dark Souls... Bon, à l'époque, c'était pas... Ça s'appelait pas Dark Souls, mais entre un Super Ghouls and Ghosts et un Tortue Ninja ou un Metal Gear, on était bien content de se balader tranquillement, quoi. Alors, qu'est-ce que ça raconte, Philippe ? Comment faites-vous pour obtenir un tel résultat avec une telle carte Adlib ? Vous voyez, la première question, ça concerne le son. C'est vrai que le son du jeu était bon. Alors, qu'est-ce qu'il raconte ? Alors, Adlib, c'est un chipset son. Voilà. Type de carte son utilisée à l'époque. Il y avait Adlib, Sound Blaster, il y avait les Roland, etc. Alors, qu'est-ce qu'il raconte ? Philippe Ulrich, donc le boss de Cryo. Respect, robustes. En fait, il n'y a rien de sorcier, nous avons seulement travaillé sur de nouvelles routines exploitant la carte sonore de manière plus poussée. Voilà, c'est gentil. Qui a composé cette musique ? Alors, les gars, si vous voulez écouter de la bonne musique, allez-y. Sur Spotify, il a son compte, c'est Stéphane Pic, P-I-C-Q. Donc là, il parle Stéphane Pic avec ma collaboration sur certains mots. En fait, nous l'avons d'abord créé à l'aide de synthé et d'outils professionnels, puis Stéphane s'est chargé de l'adapter sur PC en essayant de coller au maximum à la version originale. Je pense que le résultat est de bonne qualité. Putain, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. J'ai pas regardé ce qu'il est devenu, Philippe Ulrich, d'ailleurs, de nos jours. Il en a fait des bons jeux. En plus, j'avais postulé chez Cryo, quand j'avais quoi 10 ans. Quand j'avais 10 ans, j'ai postulé chez Cryo pour être testeur de jeux vidéo. Ils m'ont dit d'aller me faire mettre, mais alors, comme des amours, parce qu'ils ont vu... dans ma lettre, ils ont vu que j'avais 10 ans, du coup ils m'ont répondu, ils écrivent avec un carton Cryo, texte manuscrit, petite signature, ils m'ont fait plaisir. J'ai postulé comme ça dans certaines boîtes, dans plusieurs boîtes, j'ai postulé chez Sierra, j'ai postulé chez Infogrames, etc. Tout le monde m'a envoyé péter en disant que ils n'utilisaient pas en fait de testeur externe. Mais big up à Sierra qui m'a répondu avec un mot personnalisé, avec un petit portefeuille Adibou, et ils m'ont filé un an d'abonnement à Adibou Magazine. J'étais ouf. Alors du coup, Dune, si vous voulez y jouer en 2022, c'est possible. En fait, c'est un abandonware, la boîte n'existe plus. Du coup, il est disponible gratuitement sur abandonwaregames.com. C'est une expérience à vivre. Si vous voulez voir un prépuce dégueulasse surgir hors du sol, vous pouvez. Après le jeu, voilà, bonne ambiance. C'est vraiment une expérience narrative, sachez-le. Tout ce qui est un peu autour, les phases de gestion de machin, c'est un peu OSEF. J'ai largement dépassé les 1 heure, et du coup j'ai rompu mon serment que je me suis fait en début d'enregistrement de rester sous la barre des 1 heure. Après montage, je pense que je serai toujours aux alentours de 1 heure, 1 heure et quart, mais bon. Écoutez, tant pis, il faut savoir prendre son temps, et voilà, c'est du bonheur que je vous fais couler dans l'oreille, voilà. Le bonheur qui coule de ma bouche, tel le sperme de la bouche d'une pute. Et donc, 30 ans après, on joue à quoi ? Eh ben, 30 ans après, bordel de merde, ça y est, on joue à Elden Ring. Alors, nous arriverons tranquillement à 2 semaines et demie. Alors, je vous parle de sa sortie. J'ai joué 90 heures au jeu. Est-ce que c'est bien ? Oui, quand même, oui. Alors, c'est bien, en fait, c'est Dark Souls en monde ouvert, mais un monde ouvert assez organique et pas trop organisé de manière à la truelle, un peu comme les mondes ouverts Ubisoft, qui sont pas forcément désagréables, hein, n'est-ce pas Ben, quand on à partir du moment où on sait à quoi on a affaire. Mais quand même, la qualité de chaque... Voilà, c'est un peu comme Breath of the Wild. Alors attention, je dis pas que c'est du même acabit, mais en tout cas, au niveau du monde, la création du monde, c'est vraiment juste le fait que chaque endroit soit unique. Chaque endroit est unique, vous allez toujours avoir des trucs intéressants à faire, à voir, il n'y a pas une seconde où vous allez vous ennuyer, il n'y a pas 30 secondes où vous vous baladez, vous ne savez pas trop quoi faire, il y a toujours un endroit vers lequel vous avez envie d'aller, vous allez être toujours surpris, et en fait ça c'est trop bien, c'est ce qui était une des grandes forces de Breath of the Wild. Après, le fait est que dans Breath of the Wild, effectivement, il n'y avait pas de... Il n'y avait pas vraiment de donjons, quoi. Il y avait quelques gros donjons, il y en avait trois, et c'était même pas, c'était plus des donjons à énigmes qu'autre chose. Du coup, sur cette phase-là, il se fait enculer par Elden Ring, hein, complètement. Aucun rapport. Hein. Le jeu est vraiment beaucoup plus agréable. Les armes ne pètent pas, on n'a pas besoin de se préparer 10 kilos de viande à la, de glace ou de feu. Enfin, voilà, c'est des... C'est des petits trucs de gameplay qui sont pas vraiment pertinents, forcément, je trouve. Donc Elden Ring, c'est la justesse. En fait, c'est pas l'innovation, mais c'est la justesse dans tout ce qu'il a voulu appliquer, que ce soit au niveau gameplay, au niveau monde ouvert. Il a voulu faire un truc, et surtout, il l'a fait bien, mais en quantité déraisonnable. C'est vraiment déraisonnable. D'ailleurs, on a bien vu qu'au niveau des conditions du personnel, pondre un jeu aussi massif... En si peu de temps, je sais plus combien de temps, hein, mais en une paire d'années, quoi, 5 ans, on va dire, il y a un prix humain derrière tout ça. N'oubliez pas que les développeurs travaillent dans des conditions terribles, et surtout bah, au Japon, déjà que les droits du salarié, on en a un peu, on s'en bat les couilles, hein, un petit peu. Bah, là, c'est encore pire. C'est encore pire. Le taux de satisfaction sur le volume horaire, le taux de salaire horaire également, les vacances, pff, c'est ridicule, ridicule. On les a pressés comme des citrons, et une fois qu'ils avaient plus de jus, on les achetait. Non, on les a pas achetés, mais voilà ce que je veux dire. Elden Ring, je vais pas m'attarder 3 ans dessus, parce que déjà, ça fait beaucoup trop longtemps que je parle. Et surtout, bah, jouez-y, hein, c'est disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Series S, Series X... PlayStation, ouais, machin, ouais, bon, à peu près tout ce que vous voulez. C'est très très bien. C'est très très bien. 90 heures, je vous dis, je suis pas à la fin du jeu encore. Je pourrais tracer vers la fin du jeu. Et en 95 à 100 heures, j'aurais fini le jeu. Mais j'ai des zones complètes, des grandes zones, pratiquement inexplorées. En 90 heures. Donc je pense qu'en 120 heures, 130 heures, j'en aurais vraiment marre et que là j'arrêterai, que j'aurais fini le jeu. Voilà, voilà. Bon, mois prochain, c'est le mois d'avril. On verra ce qui nous attend, j'ai pas encore regardé. Mais bon. Et continuez de m'écouter, ça fait plaisir à ma maman. Je vous souhaite rien du tout. Et je vous fais des gros bisous quand même. Allez, salut !